Bonsoir à vous, une saison au théâtre avec ce soir Lorraine de Sagazan, Jean-Luc Vincent et Dorothée Zumstein. Les festivals de théâtre fleurissent au printemps et c'est très bien. Ils sonnent avant le Festival d'Avignon, l'heure des journées marathoniennes, où on se précipite de salle en salle sur la piste de spectacles qui s'entrechoquent ou se répondent, s'opposent ou se complètent. À Dijon, Benoît Lambert, actuel directeur du Théâtre Dijon-Bourgogne, a repris le flambeau de Théâtre en mai, créé en 1996 par François Le Pilouer. Depuis le 19 mai et jusqu'au 28 mai, Alain Françon parraine cette édition où se croisent de nombreux artistes, et notamment la jeune génération. Parmi cette dernière, des metteurs en scène dont les spectacles ont pour sujet les femmes. Femmes perdues, femmes émancipées, femmes amoureuses, femmes batailleuses. Que disent-elles de nous et du monde, ces femmes dont le théâtre a choisi de faire ses héroïnes? Réponse ce soir avec nos invités. Lorraine de Sagazan, Jean-Luc Vincent et Dorothée Zumstein sont au micro d'une saison au théâtre jusqu'à 21h.
La notion de féminisme vous paraît une notion importante?
Pas du tout, non. Les femmes, pour leur émancipation, s'alignent sur les hommes. C'est ça que je trouve très regrettable. J'aime pas du tout les suffragettes. Les femmes deuxième sexe. Je trouve que la femme, elle est encore à la proto-histoire de la femme. Elle a tout à faire. Son histoire est à venir. Mais s'aligner sur l'homme pour faire reconnaître ses droits, c'est marquer le coup. C'est stupide. Comme si l'homme était le critère de l'individualité.
Mais alors, quel est le critère à venir de la femme?
Son naturel.
Mais si la femme est un animal relativement aliéné, le naturel est une question qui reste à débattre.
Il est aliéné de l'extérieur, il a été aliéné par l'homme, qui s'en est servi pendant des siècles, par la chrétienté. Mais je veux dire, je parle d'un vrai naturel, pas du naturel opprimé. Ce n'est plus le naturel. C'est en allant de l'avant, à partir de notions très élémentaires comme l'éducation, en laissant les filles grandir comme les garçons, que la femme récupérera son naturel. Elle l'a perdu à cause de l'homme. Tout ça sont des valeurs grossières qui ont fait le pouvoir de l'homme. C'est les valeurs guerrières, le courage, etc. Il faut nettoyer tout ça.
Comme un rocher qui dure sous les gifles du sel. Comme un arbre solide sous les trombes d'eau.
Bonsoir à tous les trois. On vient d'entendre en ouverture d'une saison au théâtre la voix de Marguerite Duras dans une archivina diffusée en 68. Duras et sa parole tranchante, Duras que vous ressuscitez, Jean-Luc Vincent, dans Détruire, ce spectacle que vous a inspiré une des plus belles pièces de l'auteur, c'était Détruire, dit-elle. Duras encore qui évoque ce naturel que les femmes auraient à reconquérir en se débarrassant de la mainmise des hommes. C'est un peu ce que vous opérez, Lorraine de Sagazan, en adaptant une maison de poupées et en transformant la mère au foyer, Nora, telle que l'avait imaginé Ibsen, en femme d'affaires. Et puis, pour quitter Duras, avant d'y revenir, Jeanne Chéral et sa magnifique chanson, Femme debout, ça c'est plus particulièrement pour vous, Dorothée Zumstein, et pour cette femme que vous faites apparaître dans la pièce Médée, que met en scène Julie Duclos, qu'on a pu voir au Théâtre de la Colline. Cette femme, Kate, qui à 40 ans, se souvient comment, à l'âge de 11 ans, elle a accompli l'innommable en tuant elle-même deux enfants de 3 et 4 ans. Alors, que de femmes dans cette émission? Que d'héroïnes fictives, héroïnes réelles qui flirtent avec le diable ou l'embrassent à pleine bouche. C'est pour parler de ces femmes et de votre désir de les faire apparaître en scène que nous vous avons réunies. Donc je reprends ma question, elle est un peu large, elle est un peu impossible, mais qu'est-ce qu'elles disent de nous et du monde, ces femmes dont votre théâtre a fait ses héroïnes? Lorraine de Sagazan.
Je suis assez intéressée par le passage écouté de Marguerite Duras et je suis assez d'accord en effet avec cette définition. Dans Une maison de poupée, moi ce qui m'a intéressée dans la pièce d'Ibsen, la pièce originale, puisque j'en ai fait une adaptation, j'aurai l'occasion d'y revenir, mais dans la pièce originale, c'est comment tout à coup Ibsen s'empare d'un tabou qui est aussi le fait de redéfinir ce qui pourrait être une norme dans la société, la norme du couple, donc la place de l'homme et la place de la femme dans le couple hétérosexuel de l'époque d'Ibsen. Et mon désir d'en faire une adaptation, c'est d'abord passer par un travail de la pièce originale pendant un mois avec toute mon équipe, au bout duquel je me suis rendu compte que raconter une maison de poupée de cette manière-là me semblait assez vain, puisque j'avais l'impression finalement que ça n'était plus du tout une situation taboue et que ça n'était pas très intéressant de raconter ces places, puisqu'elles avaient évolué depuis plusieurs décennies dans un pays notamment comme la France. Et donc j'ai souhaité repartager le texte, bon, d'un point de vue technique, mais aussi pour repenser la norme éventuelle d'un couple homme-femme aujourd'hui. Et ça passe notamment par une réflexion sur la sphère privée et la sphère publique, sphère privée qui était attribuée bien plus volontairement à la femme pendant des siècles, et sphère publique qui appartenait plutôt à l'homme, et là une manière de les renverser et de faire que la femme aujourd'hui a cette possibilité d'appartenir aussi à la sphère publique et d'y avoir une action, et l'homme de participer à la sphère privée.
Alors vous aussi, Dorothée Zumstein, la norme, vous lui mettez un sacré coup de pied, si j'ose dire, en faisant apparaître sur le plateau une héroïne qui est une infanticide. C'est assez rare, à part Médée, dans l'histoire du théâtre, exemple le plus éclatant, on connaît assez peu de femmes infanticides. Là, ce n'est pas une mère, c'est une jeune femme. Elle a 11 ans lorsqu'elle tue ses deux petits-enfants de 3 et 4 ans. Quelle drôle d'histoire, qui est en plus une histoire vraie. Comment vous est venue l'idée d'aller puiser à cette tragédie qui a réellement eu lieu, Dorothée Zumstein?
Alors d'abord, je voudrais juste préciser une chose, c'est que c'est May Day, bien évidemment.
Oui, en fait, il y a des M-A-Y-D-A-Y.
Non, mais je dis ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont entendu Médée. Et d'ailleurs, il y a des choses intéressantes qui ont été dites sur Médée. Sur Médée, dont moi-même je n'avais pas été consciente en écrivant la pièce, notamment un comédien que j'aime beaucoup m'a fait remarquer qu'on pouvait remonter à partir, puisqu'il y a une série de gestes qui va se conclure chez la petite fille qui a commis le crime, puisqu'il s'agit d'une enfant qui commet un crime, par ce crime, mais ça remonte, en fait, il y a un geste qui remonte dans les générations. Et cet acteur me faisait remarquer qu'on pouvait continuer à remonter les générations, en fait, jusqu'à l'origine de la tragédie ou jusqu'à Médée. Donc, il y a effectivement, qui est évidemment l'infanticide, mais je n'avais pas du tout pensé, quand j'avais trouvé le titre Mayday, à Médée.
L'inconscient est quelque chose sur quoi on n'a pas
toujours
prise.
Mais c'est étrange, parce que j'avais pensé à May, qui est le prénom de l'héroïne, à Mayday, qui signifie un appel, qui est SOS pour les avions ou les bateaux, et aussi au fait que le crime a lieu en mai, qu'elle tue un jour de mai à la veille de son anniversaire. Donc ça, c'est vraiment les bases du fait divers. C'est ce dont je suis partie, c'est ce fait divers avec cette petite fille qui, à la veille de son anniversaire, dans une maison abandonnée, tue un petit garçon en 1968.
Pourquoi cet intérêt pour cette femme? Pourquoi le désir de la partager avec le public du théâtre? Pourquoi elle? Pourquoi celle-ci?
Déjà, il y a deux choses. Alors, je ne sais pas, je pense que c'est vraiment... Pour moi, c'est flagrant. En fait, il y a beaucoup d'hommes qui tuent leurs enfants. Mais on pense surtout, quand on parle d'infanticide, on parle surtout des infanticides commis par des femmes. Même s'ils sont minoritaires en nombre, on parle surtout, en fait, des infanticides commis par des femmes. Comme si la monstruosité... Comme si c'est beaucoup plus monstrueux si c'était commis par une femme, parce que ça va à l'inverse des images qu'on a de maternité, Enfin, on est quand même bercé par des images de Vierge Marie et d'Enfant Jésus. Non, mais c'est vrai, et de Madone, et de... On sacralise la maternité. Donc, il y a quelque chose qui serait d'autant plus monstrueux que l'acte est commis par une mère, alors qu'un enfant soit tué par sa mère ou par son père, moi ça me paraît tout aussi
monstrueux. Ou par quiconque, hein, de toute façon.
Oui, ou par quiconque, ça paraît tout aussi monstrueux, mais il y a quand même un accent qui est mis sur les infanticides, particulièrement sur les mères, par rapport au nombre d'infanticides réellement commis. Et là, il y a quelque chose de très intéressant, c'est quand on voit le visage d'une enfant de 10 ans ou de 11 ans qui a commis ses crimes, parce qu'elle a commencé à 10 ans, donc à la veille de son anniversaire de 11 ans, on voit quelqu'un qui est vraiment décrit comme un monstre, qui est vraiment montré comme un monstre avec toutes les images qu'on peut avoir de films d'horreur où des enfants tuent, etc. Enfin, vraiment une image qui appartient presque comme ça à un scénario de film d'horreur. Et en même temps, on se dit, c'est pas possible. C'est pas possible qu'une enfant de 10 ans fasse ça sans être une victime. Donc on a d'un côté le regard qui est posé sur elle, et d'autre côté, on a le vrai regard d'une petite fille de 10 ans. Et entre les deux, il y a un tel hiatus. Pour moi, le point de départ, je pense que c'est ce hiatus-là, qu'un acte ait pu passer par une personne où, a priori, en la regardant, on ne voit pas tellement le rapport entre l'acte et le visage que l'on voit, et la manière dont cet enfant a été regardé littéralement comme un monstre par la presse anglaise, au point d'être harcelé, parce que doublement monstrueuse, parce que enfant et parce que femme. Et parce qu'un crime pareil ne peut appartenir ni à une femme ni à un enfant.
Évidemment, on ne peut pas ne pas penser, Jean-Luc Vincent, alors ce n'est pas votre spectacle, mais à la Marguerite Duras qui écrit sur l'affaire Villemain.
Villemain, oui.
Le petit Grégory qu'on avait retrouvé dans les eaux de la, dans les eaux d'un fleuve dans le nord de la France et qui avait écrit ce sublime, forcément sublime, sans quoi elle s'était radicalement
trompée.
C'est pas cette Duras-là, évidemment, que vous travaillez, puisque vous travaillez Détruire, dit-elle, que vous avez adapté. Quel lien est-ce que vous faites entre Détruire, dit-elle, ce qui est pour moi une des plus belles pièces de Marguerite Duras, qui est un roman évidemment sur l'amour, sur la femme, sur l'homme, et sur une forme d'émancipation aussi de la femme et de ce que représente le désir dans sa vie, son propre désir. Et ce qu'elle disait en ouverture de cette émission, quand elle parle du naturel de la femme qui lui a été au fond inculqué par les valeurs guerrières de l'homme, ou par les valeurs de l'homme tout court. Et qu'elle doit retrouver son naturel à elle.
Bah, elle dit qu'il faut tout nettoyer.
Oui.
C'est un peu ce qu'elle dit aussi dans Détruire, dit-elle. C'est un texte de 69, donc c'est aussi une grande époque.
De la même époque.
De tout détruire pour recommencer. Et donc, et ce naturel, elle le cherche. Enfin, Duras, elle le cherche. Il redéfinit aussi. Alors moi, forcément, j'ai un regard d'homme. Donc, moi, ce qui m'intéresse dans le fait de porter une parole de femme comme celle de Duras et aussi des personnages aussi intenses, aussi riches, aussi épais que celles qu'elle a pu écrire pour les femmes, c'est aussi que ça me redéfinit en tant qu'homme et que ça redéfinit aussi, bien sûr, la question de la masculinité ou de la virilité, puisque quand elle dit tout nettoyer, ça veut dire aussi qu'il faut un peu nettoyer cette question des identités homme-femme en fonction d'un naturel qui a été effectivement complètement... on va dire construit par toute une culture déjà très ancienne et tout ça, et que 68 a correspondu finalement aussi à ce moment où on a remis toutes ces choses-là en question, et qu'aujourd'hui la question revient de façon extrêmement puissante, puisqu'on est dans une phase très réactionnaire depuis une dizaine d'années, où on voit que ce discours-là n'est toujours pas entendu, est toujours remis en question, est constamment remis en question, et que ça reste un combat des femmes, et qui doit être mené aussi par les hommes, je pense. Et au théâtre en particulier.
Et au théâtre en particulier.
Oui, sur les scènes en particulier, oui.
Et pourquoi justement peut-être plus sur le théâtre qu'ailleurs, à votre avis, Jean-Luc Vincent? Ou Lorraine de Sagazan, ou Dorothée Zumstein?
J'ai l'impression que là, ce qui semble nous réunir aussi, c'est la figure de l'héroïne, qui est moi une chose à laquelle j'ai eu envie de réfléchir. C'est-à-dire, il y a une très belle phrase de Virginia Woolf que je serais pas vraiment capable de citer, mais qui dit que dans la représentation la plus diffusée de la femme en matière artistique, la femme était représentée comme étant sublime, belle, noble, extraordinaire, tellement forte. Et il y a une position très confortable à regarder une femme de cette manière-là, mais cette femme-là existe-t-elle? Virginie Despentes écrit beaucoup dessus dans King Kong Theory, c'est une chose qui est citée aussi dans l'adaptation d'Une maison de poupée. Et je trouve que moi j'ai eu envie en tout cas de donner la place à une femme normale avec ses aspérités et lui donner la possibilité d'être simplement là, sans qu'on questionne son caractère d'héroïne extrêmement puissante, extrêmement forte, extrêmement belle, extrêmement rare en fait. Simplement lui donner la possibilité d'être là.
France Culture,
une saison au théâtre,
Joël Gaillot.
Je suis faite pour plaire et n'y puis rien changer. Mes lèvres sont trop rouges, mes dents trop bien rangées, mon teint beaucoup trop clair, mes cheveux trop foncés. Et puis après, qu'est-ce que ça peut vous faire? Je suis comme je suis, je plais à qui je plais. Je suis comme je suis faite comme ça. Quand j'ai envie de rire, oui.
Bon, si c'est Juliette Gréco qui le dit, hein, respect. Vous parliez, Lorraine de Sagazan, de ce statut d'héroïne dont vous vouliez au fond vous débarrasser. Je suis quand même très troublée, Dorothée Zumstein, de ce que vous racontez du processus qui s'est fait en vous par rapport au mot « m'aider ». donc on le redit, votre pièce s'appelle Mayday, M-A-Y-D-Y, et ce n'est que tardivement que vous avez compris l'analogie avec Mayday, M-E-D-E, donc l'héroïne tragique. Je suis troublée parce que je pense que ça en dit beaucoup sur, au fond, tout le processus souterrain, tout le processus inconscient qui fait que les femmes encore aujourd'hui, les femmes au théâtre, les héroïnes de théâtre, je reprends quand même l'expression, sont encore rattachées d'une façon ou d'une autre à leurs ancêtres, au Médée, au Phèdre, à Andromaque, à Iphigénie. Quand est-ce que ce sera possible de se débarrasser de ce lien-là? Faut-il s'en débarrasser? Faut-il couper la chaîne? Faut-il rompre le fil? Dorothée Zumstein.
Moi, j'ai envie de rebondir aussi sur la question que vous aviez posée précédemment, parce qu'il me semble qu'il y a un lien entre à laquelle répondait Lorraine. C'est que des gens qu'on a voulu priver de leur liberté, puis on porte, je pense, aussi tout ça en nous. D'ailleurs, je pense les hommes aussi bien que les femmes, enfin, que quand il y a eu cette. Souvent, c'est le corps qui a réagi. Souvent, c'est le corps qui a été puni. Je veux dire, on a brûlé les sorcières, on a lobotomisé une quantité de femmes incroyable aux États-Unis et surtout des femmes. C'est intéressant, par exemple, de voir que c'est souvent le corps, j'allais dire, qui prenait ses quartiers et qui était en quelque sorte puni. Et je pense que c'est quand même l'endroit de manifestation du corps aussi, le théâtre. Donc c'est aussi un corps qui est en majesté, qui est en liberté, qui est en gloire. Et par rapport à ce que vous disiez sur Médée, moi, le seul point commun qui m'est apparu, par exemple, par rapport à mes héroïnes, et c'est une chose dont j'avais pas du tout pris conscience, c'est que le point commun qu'elles ont, en réalité, c'est qu'elles entre toutes, d'une manière ou d'une autre, en tout cas, elles ont la sensation d'entrer en lévitation. De l'éviter. Et c'est un peu la fin de Médée. Enfin, elle se transforme en autre chose et cet acte terrible qu'il faut qu'elle accomplisse en quelque sorte pour ne plus être prisonnière d'elle-même et de sa vie et devenir autre chose, qui est quelque chose qui serait quelque chose qui se libérerait, alors par le haut en l'occurrence. Mais je pense qu'il y a des images qui nous restent parce que ce sont des images de libération, soit parce qu'on est cloîtré dans un corps, soit parce que ce corps est cloîtré dans un lieu. Et je pense que le théâtre aussi, c'est cet espace, j'allais dire, libératoire où le corps, le corps contraint, pour reprendre une métaphore alchimique, on dit qu'on transforme le corps vil en corps glorieux. Je dirais qu'on peut transformer au théâtre le corps contraint, le corps cloîtré, en corps glorieux parce que libre.
Jean-Luc Vincent ?
La question qui se pose, c'est la question de la représentation. Si on regarde ce que les scènes proposent en termes de représentation des femmes, peut-être même en particulier parfois chez des jeunes metteurs en scène, c'est assez étonnant quand même qu'on soit encore beaucoup dans une représentation, on sort pas tellement de la maman et la putain quand même, beaucoup. Le corps meurtri, le corps attaqué, le corps... On a rarement des femmes en pleine puissance, c'est-à-dire vraiment qui soient ni des Lucrèce Borgia, ni des monstres pour le coup, mais qui soient dans une sorte de pleine puissance, de pleine affirmation de ce qu'elles sont. Et aussi, ça veut dire aussi de leur intellect. Et c'est pour ça que moi, je suis aussi fasciné par Marguerite Duras, qui, je pense, est un des grands esprits libres du XXe siècle, qui, en étant une femme par ailleurs, enfin, je veux dire, ça nourrit sa pensée, et en même temps, elle a une puissance intellectuelle qui est très, très, très grande et une grande liberté intellectuelle qui se voit aussi dans sa liberté de mœurs, sa liberté politique. Donc, c'est pour ça aussi que ça m'intéresse d'aller vers elle, en fait, comme auteur. Mais ce qui m'intéresse, c'est que si la femme puisse être intelligente, puisse penser, puisse avoir en charge l'éducation, pas seulement sentimentale des enfants, mais aussi leur éducation intellectuelle. Et même certaines écritures assez contemporaines, parfois, n'en rendent pas du tout compte. C'est-à-dire que on donne encore aux hommes toujours la parole de l'intelligence, de l'éducation, de la culture, et à la femme plutôt celle de la souffrance, de la victimisation, de l'histoire douloureuse. Voilà. Dans Détruire dit-elle, il y a ce personnage féminin, il y a deux personnages féminins, il y en a un comme ça qui se libère de quelque chose qui l'emprisonne dans un emprisonnement, on va dire, bourgeois, et une autre qui est totalement libre, qui s'appelle Alissa, qui est vraiment une forme de liberté totale et où j'ai moi-même, dans l'adaptation, redistribué des paroles qui étaient dites par un personnage masculin, que je lui redistribue aussi pour que le personnage ait encore plus de puissance intellectuelle et de liberté morale. Voilà.
D'ailleurs, je dois dire que vous êtes accompagné pour cette création par votre complice des Chiens de Navarre, puisque on vous associe aussi aux Chiens de Navarre, Jean-Luc Vincent, Anne-Élodie Sorlin, qui campe une Marguerite Duras absolument incroyable. C'est Duras sur scène, hein. C'est pas difficile. C'est Marguerite Duras qu'on a sous nos yeux. Lorraine de Sagazan, est-ce que Ibsen, que vous avez retravaillé, que vous avez tordu dans le sens où vous souhaitiez l'amener en faisant de Nora la femme d'affaires et de son époux Torven, l'homme au foyer qui s'occupe des enfants. Est-ce que Ibsen a résisté? Est-ce qu'il a fallu y aller un peu par la contrainte pour opérer cette torsion? Et donc, faire de la pièce, pour moi, aujourd'hui, un vrai manifeste féministe. Hein.
Oui, enfin, la pièce peut résister techniquement puisqu'il existe évidemment une construction, un travail d'auteur. Donc c'est toujours un peu difficile d'essayer d'élaborer ce processus d'inversion, de repartage du texte. Il y a toujours en effet des contraintes, mais je trouve qu'elle résistait encore plus dans sa version originale, sans du tout nier le génie d'Ibsen, puisque c'était bien au contraire pour le représenter en fait que ça m'intéressait de monter cette pièce.
Mais vous avez essayé de le faire dans la version originale, ouais. C'est-à-dire en respectant les attributions de chacun des personnages. Ouais. Et vous n'avez pas pu.
Non, en fait, on est à la troisième version du spectacle qu'on retravaille continuellement. Et la première version était une version dans sa forme originale. Et puis à un moment donné, on s'est simplement dit que ça ne pouvait pas avoir lieu aujourd'hui puisque ça ne provoquait rien de transgressif et de sulfureux comme la maison de poupée de l'époque d'Ibsen qui a quand même apporté. Je lisais une chose hier au Japon. Il y a eu une revue, un manifeste aussi. Enfin, les débuts du féminisme au Japon ont commencé avec une maison de poupée, donc notamment une œuvre littéraire théâtrale, mais aussi ce personnage de Nora. Donc au-delà des frontières et au-delà simplement du théâtre, ça a libéré, désinhibé un grand nombre de femmes et aussi probablement d'hommes. Enfin, ça a vraiment fait bouger les limites.
En Angleterre, ouais. C'était énorme. Il y a George Bernard Shaw qui a écrit une pièce sur ça, sur les effets d'une maison de poupée qui s'appelle The Philanderer, qui est super drôle, qui se passe au Club Ibsen. Et c'est des personnages qui sont... elle n'est jamais représentée, cette pièce. C'est vraiment sur les effets en Angleterre de l'ibsenisme.
Mais alors, on parlait du corps tout à l'heure. Vous parliez du corps, Dorothée Zumstein. Est-ce que vous avez été attentive à ça, justement, Lorraine de Sagazan, dans cette version complètement contemporaine et repensée à l'aune de notre monde d'aujourd'hui, de la pièce d'Ibsen, Une maison de poupée? Est-ce que vous avez pensé, justement, à un traitement particulier réservé au corps de l'actrice qui incarne Nora?
Oui, l'actrice qui a été choisie pour jouer Nora, qui s'appelle Jeanne Favre, elle est très grande, très belle, très mince, c'est-à-dire elle a cette image immédiate de la femme idéale, dans la représentation qu'on peut se faire de la femme idéale. Et d'ailleurs, Thorvald a aussi ces mêmes attributs, des attributs masculins. Donc on a aussi essayé de réfléchir finalement peut-être aux clichés aussi qu'on peut avoir de la représentation immédiate d'un homme et d'une femme, et de voir comment ces clichés petit à petit rencontrent des difficultés, et comment le but vraiment de l'adaptation, ça a été de re-réfléchir à ces cadres qui sont étouffants, malgré l'évolution en effet de la société. Encore une fois, je parle là de la société française, puisque dans d'autres pays ce serait différent, mais en tout cas, est-ce que ces cadres n'existent pas toujours, et quels sont-ils, et comment ils continuent à nous étouffer, même s'ils sont probablement bien plus latents quand même qu'à l'époque d'Ibsen. Mais c'était de les mettre en lumière et puis de voir à quel moment ça explose quand même.
Mais pour rebondir sur ce que vous disiez, Jean-Luc Vincent, quand vous parliez de justement le discours attribué à la femme et le discours attribué à l'homme, est-ce que vous croyez possible les uns et les autres d'imaginer, et vous êtes auteur, Dorothée Zumstein, donc la question s'adresse surtout à vous en l'occurrence, d'imaginer une héroïne hors sol, qui justement serait débarrassée de tout ça, qui serait débarrassée du fait d'être une mère, du fait d'être une épouse, du fait de peut-être ne pas travailler, enfin d'être déterminée par sa condition sociale, enfin une héroïne hors sol.
Mais j'ai pas tellement l'impression de penser mes héroïnes. Enfin, j'ai pas l'impression. D'ailleurs, j'ai pas tellement l'impression que c'est différent pour moi quand j'écris des rôles d'hommes. Je suis désolée, ou des rôles de femmes. Mais en même temps, je constate que j'écris plus de rôles de femmes, donc qu'il doit y avoir. Mais là, par exemple, sur Never Never Never, qui est une autre pièce.
Qui a été créée à Paris il y a quelques temps.
Donc je suis un peu dedans là en ce moment. Je vois qu'effectivement il y a deux femmes qui se suicident, qu'il y a un homme, mais j'ai pas qui est le poète Ted Hughes, mais j'ai pas du tout eu de, il y a pas eu du tout de différence pour moi dans l'écriture que j'écrive le rôle d'un homme ou le rôle d'une femme. Je ne me pose jamais la question de savoir.
Rien ne change.
Non, en fait, oui, non. Oui. Pour moi, non. Et je conçois tout à fait que pour des gens, oui, que peut-être on peut trouver que quand on le lit. Mais pour moi, non. C'est-à-dire que c'est une parole. J'adore la préface que Genet écrit, la préface des bonnes, où on lui a dit, mais aucune employée de maison ne parle comme ça. Et il a répondu, oui, mais moi, si j'étais bonne, je parlerais comme elle. Et ben, je trouve que ça vaut à peu près certains soirs, il rajoute. Alors, c'est sûr que ça vaut que certains soirs. Il n'y a que certains soirs où on peut parler comme tout le monde. Mais du coup, c'est très étonnant parce que moi, je pense que dans ma langue, je pense pas du tout avoir par exemple un type de discours ou même de vocabulaire ou même de qui est lié à tel ou tel personnage. Je pense avoir une écriture, j'écris en vers libre, j'ai une écriture entre guillemets poétique, et donc je peux dire je parlerai si j'étais un homme, et si j'étais Ted Hughes, et si j'étais poète, et si j'étais anglais, je parlerais comme ça. C'est-à-dire que, et c'est toujours certains soirs, hein, c'est pas tout le temps, sinon on deviendrait fou. Et après, savoir pourquoi on est aimanté par une histoire ou par une autre, alors là, pour moi, c'est un mystère. C'est-à-dire pourquoi, à un moment, quelque chose me regarde, hein, comme dans les... non, c'est dans le partage de midi, je vous regarde, ça me regarde. Bon, ben voilà, ça, c'est le mystère de je vous regarde, ça me regarde. Mais j'ai pas l'impression, contrairement peut-être à vous deux, d'avoir un... Je pense que vous avez davantage un discours et une réflexion sur l'époque que moi j'ai. Je crois que c'est pas à cet endroit-là que je suis. En même temps, sachant que les choses peuvent quand même, que quand on... Voilà, que peut-être quand on est... Et peut-être que si, malgré moi. Mais peut-être pas, en tout cas, de manière aussi immédiate ou consciente.
Elle parle le féminin. Elle parle féminin, les femmes, chez Duras, Jean-Luc Vincent.
Alors, chez Duras, qui est toujours... parce que tout ça, de toute façon, est d'un paradoxal, d'une contradiction permanente et totale. C'est ce que j'aime beaucoup, hein, aussi, notamment chez Virginie Despentes, qui porte cette parole dans toute sa contradiction. Alors, chez Duras, elle est quand même encore beaucoup dans une époque. Et donc, il y a quand même un parler féminin qui est celui, chez beaucoup de ses héroïnes, pas toutes, mais quand même chez Anne Desbarrettes dans Moderato Cantabile, ou tout ça, qui est celui de la femme quand même contrainte dans un milieu qui l'étouffe. Donc, ce qui est dans l'étouffement ou la parole. Alors, la parole se libère, et c'est là qu'elle transcende un peu son époque, par quelque chose d'un rapport au tragique qui passe par l'amour et par le romanesque, en fait. C'est ça qui est toujours étonnant chez elle. Par la fiction dans toute sa puissance et aussi dans toute son abstraction, finalement. C'est Anne-Marie Streeter dans les comptoirs en Inde, c'est l'Olvestein, et ça amène à la folie, en fait, assez vite. Mmh. Cette sorte de libération amène à une folie qui, pour elle, a à voir aussi avec une folie qui est à venir, ou à propos de détruire dans une interview avec Jacques Rivette, quand le film sort, qu'elle a réalisé, qui est le premier film qu'elle réalise, où il lui dit « mais tous vos personnages sont fous ». Elle dit « oui, de toute façon, l'homme communiste de 2069, à l'aune de ce que l'on vit aujourd'hui, serait considéré comme fou. Donc on serait tous fous si vraiment on était libre. » Donc chez elle, c'est un mélange comme ça, étrange, entre du tragique, du romanesque, de la folie pure, de la pensée très forte, et en même temps qui ramène toujours dans un cadre fictionnel qui est quand même toujours celui de la femme malheureuse dans sa maison à Auteuil. Bon, c'est ce aussi qui fait que certaines personnes ne supportent pas Duras, hein. C'est ce côté à la limite du roman de gare aussi parfois, ou de la littérature pour adolescentes. Il y a des gens qui me disent ça, que c'est vraiment qu'on aime ça quand on est 14 ans et qu'on est une fille, ce qui est très intéressant d'ailleurs, là encore, du point de vue de ce qu'on peut lire quand on est un homme et de ce qu'on peut lire quand on est une femme.
De la perception qu'on peut avoir de tout ça, effectivement. On va devoir se quitter, mais je voulais dire avant qu'on se quitte que ces spectacles qui se créent à Dijon, on va redonner les dates tout de suite. J'ai pu les voir, moi, à Paris, en l'occurrence, Détruire, c'était au Théâtre de Vanves. Oui. Bon, on sait l'amour que j'ai pour ce théâtre. Le vôtre, Lorraine de Sagazan, c'était aussi au Théâtre de Vanves. Et le vôtre, c'était au Théâtre de la Colline, Dorothée Zumstein. Et quand j'ai vu votre spectacle, Lorraine de Sagazan, on ne savait pas à la fin si Nora partait ou restait, si elle quittait le domicile, ou si elle décidait de rester avec son époux qui lui avait fait une grande traîtrise, enfin, qui avait été vraiment assez immonde avec elle. Alors elle part ou elle reste ?
Bah, je laisse justement le spectateur responsable d'en décider.
Vous me le direz hors micro alors.
Ouais.
Merci beaucoup à tous les trois.
Merci.
Si on t'organise une vie bien dirigée, où tu t'oublieras vite.
Vous serez donc, je le disais, tous les trois au Festival Théâtre en mai à Dijon. Détruire, de Jean-Luc Vincent, d'après le texte de Duras, c'est le 22 et 23 mai. On peut encore le voir le 22 et 23 mai. Mayday de Dorothée Zumstein, mise en scène par la très très talentueuse Julie Duclos, c'est du 26 au 28 mai. Et une maison de poupée d'après Ibsen, mise en scène par vous, Lorraine de Sagazan, dont une maquette avait été présentée à la Loge, autre très bon théâtre parisien. C'est à Dijon du 22 au 24 mai. Le festival, pour sa part, se terminera le 28 mai. Vous pouvez podcaster cette émission à la page Une saison au théâtre sur le site de France Culture. Marie Dalquet, Yutou, Diego, Hat Lopez, Vanessa Nadjar, Joël Gaillot vous salue et vous souhaite une excellente soirée à l'écoute des fictions présentée par Blondine Masson.
C'est pas pour ça qu'on t'aime. Si tu réalises que l'amour n'est pas là, que le soir tu te couches.